بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد.
Le sujet de notre intervention aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, comme vous l'avez lu sur les affiches, est la foi sans fruit. Qu'est-ce qu'on entend par foi sans fruit? Quel est le but de cette intervention aujourd'hui? Donc, de quel sujet précisément on veut parler? Il s'agit de ce musulman qui est, on va dire entre guillemets, j'ai bien dit entre guillemets, qui est pratiquant et qui prétend, je souligne prétend, 10 fois, qui prétend suivre les préceptes du Coran, de la parole d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et qui a pris comme engagement donc d'être dans cette vie ici-bas conforme à la parole d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Ce musulman qui prétend ceci, je vis surtout ceux pour lesquels cela se reflète dans leur aspect extérieur. Donc, je vis une certaine catégorie de personnes et c'est beaucoup de gens. Cet aspect qui est le fait de suivre la sunna et la parole d'Allah Azza wa Jal, de pratiquer l'islam, c'est un aspect extérieur. Mais lorsqu'on se rapproche beaucoup plus de cette personne, lorsqu'on connaît plus cette personne, on voit qu'il y a une très grande différence, il y a un grand fossé entre ce qu'il est et ce qu'il prétend être. Moi je suis sunni, je suis salafi, je suis le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. C'est bien. Et puis tu te rapproches de la personne, tu le connais mieux, tu vois qu'il y a un grand fossé entre ce qu'il prétend et ce qu'il est. Donc c'est de ça que je voudrais plutôt parler aujourd'hui ou ce soir et peut-être donner certains exemples. Tu dois par exemple délaisser certaines obligations alors qu'il prétend suivre le Coran et la Sunna et être pratiquant. Tu dois par exemple commettre des choses qui sont complètement illicites, haram, peut-être même des grands péchés, sans qu'ils se rendent compte ou sans qu'ils attachent d'importance à cette chose. Exemple, la médisance, qui est un grand péché. Un très grand péché. Pourquoi est-ce qu'on n'attache pas beaucoup d'importance à la médisance qui est un grand péché à cause du fait que c'est quelque chose qui est facile à faire. C'est un acte, une action très facile. Il suffit de bouger la langue pour tomber dedans. Mais il suffit de bouger la langue pour tomber dedans et pour anéantir vos actions et vos hasanat, pour les brûler. Parfois, ça peut être carrément une grosse partie de la religion qui est délaissée. Une grosse partie de la religion qui est délaissée. Je peux citer par exemple al-akhlaq, le comportement. Souvent, ce côté comportement dans la sunna est négligé. Et ici, donc, je rappelle, je m'adresse aux frères qui suivent le Coran et la sunna. Je ne m'adresse pas aux autres qui sont loin de l'islam. Je m'adresse à ceux maintenant qui prétendent suivre l'islam. Donc le Coran, ou plutôt le comportement, pardon, est délaissé. Parmi les caractéristiques aussi, on fait du surplace. On n'avance pas, que ce soit dans son adoration, que ce soit dans sa foi, que ce soit dans son apprentissage du Coran ou de la religion en général. Ça peut être les prières obligatoires qui sont négligées, qui ne sont pas faites à l'heure, ou avec absence d'apaisement et de recueillement. Ça ça peut être, c'est souvent le cas, une absence au niveau des adorations qui sont supplémentaires ou surrogatoires, un nawafil, au niveau du jeûne, au niveau des prières, au niveau de la sadaqa, au niveau des invocations, au niveau de la lecture du Coran, au niveau de la visite aux malades, etc., etc. Et je peux facilement dire que ça, c'est un phénomène assez répandu que nous tous, et qui touche la majorité d'entre nous. À cause du fait que cette chose est fort répandue, il se doit d'en parler et de mettre les points sur les i. Pour expliquer encore plus la raison de ce sujet, premièrement parce que le Coran, il y a plusieurs versets qui nous incitent à être fermes et à être sérieux dans notre pratique de la religion. On cite par exemple le verset où Allah Azza wa Jalla dit à Yahya alayhi salam dans Surat Maryam, Ya Yahya khudh al-kitab bi quwwa. Ô Yahya, prends le livre d'Allah, prends-le bi quwwa, avec fermeté. Avec fermeté. Il s'agit de le prendre avec fermeté, de le comprendre et de le mettre en pratique avec fermeté et sérieux. De même, Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-A'raf, lorsqu'il parle de Houd alayhi salam qui parle à son peuple, Afun. Lorsqu'il parle de Moussa alayhi salam, il dit, وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a écrit dans les tablettes pour Moussa alayhi salam, il lui ordonna de le prendre avec force. Les savants ont expliqué ici, prendre les tablettes avec force veut dire faire son possible, tout son possible pour les comprendre, les mettre en pratique et les enseigner. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. Il a ordonné aussi à Moussa alayhi salam d'ordonner à son peuple d'en faire autant. D'en faire autant. De prendre ce livre et ses commandements avec force, avec fermeté. Allah Azza wa Jalla dit أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Dans Surat Al-Imran. Imaginez-vous, croyez-vous rentrer, accéder, mériter le paradis, en hasibtum an tadkhulu al-jannah, wa lamma ya'lami Allah, sans qu'Allah Azza wa Jalla ne sache ni distingue, wa lamma ya'lami Allah alladhina jahadu minkum, ceux d'entre vous qui ont fait des efforts, wa ya'lami as-sabirin, ceux qui ont été endurants. Il dit, le prophète alayhi salatu wa salam, toujours dans ce sens, ista'in billahi wa la ta'jaz. Ista'in billah, demande de l'aide d'Allah Azza wa Jal pour pratiquer ta religion, demande de l'aide d'Allah Azza wa Jal, wa la ta'jaz, ne faiblis pas, ne lâche pas les bras, ne faiblis pas. Ista'in billahi wa la ta'jaz. Et je termine par ce hadith que vous connaissez en majorité qui est, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Hufati al-jannatu bil makarih, le paradis est tapissé de choses qui sont difficiles pour l'âme, pour le nafs, pour l'individu. Des choses qui ne sont pas fort aimées pour apprécier. وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ. Et l'enfer est tapissé بِالشَّهَوَاتِ par des tentations, des séductions et d'autres plaisirs éphémères. On voit, grâce à ces versets et à ces quelques hadiths, qu'il y a un prix à payer pour ce paradis, qui est cher. Le paradis est quelque chose d'important, c'est une place importante. Il faut en payer le prix. Et cela rejoint la parole du prophète alayhi wa sallam qui dit Ala inna sil'at Allahi ghaliya, ala inna sil'at Allahi jannah. Cette marchandise qui est le paradis est ghaliya, est chère. Il s'agit du paradis, il faut en payer le prix. La deuxième raison pour laquelle nous parlons d'un sujet pareil, à cause du fait que les tentations aujourd'hui, les séductions, les attirances de ce bas monde sont nombreuses. Elles sont nombreuses. De sorte qu'il est à craindre que quelqu'un qui ne s'accroche pas fermement, sérieusement à cette religion, il risque de tomber dans les ténèbres de la désobéissance et dans les pièges de Shaitan, et peut-être même de la mécréance. Autre raison, alhamdulillah, vous avez remarqué autant que moi que ces dernières années, ou ces derniers temps, il y a un retour vers la religion, un retour, inshallah, sincère. On peut te remercier Allah Azza wa Jalla. Je parle à notre niveau, donc à notre niveau ici, je parle des jeunes, il y a un retour, ce qui fait plaisir. Et ce retour vers la religion de la part des jeunes nous pousse parfois à réfléchir
sur cette qualité, sur la qualité de cet islam pratiqué. La quantité, alhamdulillah, c'est bien, c'est important, mais qu'il faut-il encore réfléchir et voir quelle est la qualité de cet islam qui est pratiqué par ces jeunes. Et pour parfaire cette qualité, il est absolument nécessaire, évidemment, de déceler les erreurs, de déceler les failles et y apporter le remède qui est donc le plus apte. Et en dernier lieu, cette intervention, c'est une parenthèse importante, est une critique, mais inchallah positive. Positive. Tout ce que je vais évoquer, suivant ce que le temps nous permet, tout ce que je vais évoquer, tous les symptômes, toutes les erreurs que je vais évoquer à l'instant, eh bien, s'adresse avant tout à moi-même. S'adresse à moi-même et dans un deuxième temps, s'adresse à vous. Donc, je ne vise personne, tout le monde ici doit se sentir concerné et visé. C'est pas parce que quelqu'un vous donne un sujet ou vous donne un cours que cette personne est meilleure que vous. Il n'en est rien. Donc, je le rappelle, c'est un rappel pour nous tous. Et ces choses nous concernent autant que vous, peut-être encore plus. Les premiers symptômes de ce phénomène, je rappelle ce phénomène, est le suivant pour les gens qui sont venus en retard. Ce phénomène qui est la personne qui prétend pratiquer la religion, qui prétend être musulman, pratiquant, suivre le Coran et la Sunna, mais qui, lorsque on s'approche de cette personne, on voit qu'il n'en est rien. Il y a un grand fossé, une grande différence entre ce qu'il est réellement et ce qu'il prétend être. Et ce qui nous dérange dans ce mot pratiquant, c'est qu'il est quand même quelque part pas très logique de dire musulman pratiquant. Musulman non pratiquant. En français, ça n'a pas tellement de sens, en arabe non plus d'ailleurs, dans aucune langue. Musulman vient du mot islam, qui veut dire la soumission. Donc un musulman, si je comprends bien, c'est quelqu'un qui est soumis. La soumission, c'est l'obéissance. Allah Azza wa Jalla. Donc, quelqu'un qui est soumis, le musulman. Quelqu'un qui est obéi, mais qui ne pratique pas. Qu'est-ce que ça veut dire en français? J'obéis, mais je ne pratique pas. J'obéis, mais je n'obéis pas. Ça n'a pas de sens. Il ne devrait pas y avoir de mots du genre musulman, pratiquant, musulman, non pratiquant. On est musulman, on est pratiquant. D'office. Seulement, il n'en est rien. La réalité, elle est là. Vous avez des gens parmi nos frères, nos sœurs, etc., qui disent « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah » qui témoignent de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, qui témoignent que le prophète est bien le message d'Allah, qui croit au Coran, etc., au jour dernier, mais qui ne pratique rien de la religion. Rien. Ça existe. Bref. Parmi donc les symptômes, je vais en citer quelques-uns, il y en a beaucoup. Moi, c'est juste des exemples que j'ai repris comme ça. On peut en citer des dizaines, voire des centaines. Mais que nous en avons retenu quelques-uns. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on reproche à ce musulman qui est pratiquant? Quelles sont les erreurs qu'on nous reproche? Parmi les erreurs qu'on peut relever, premièrement, un naumu anis-salat il-maktouba, le fait de dormir pendant l'heure de la prière obligatoire, les prières quotidiennes obligatoires. Surtout, par exemple, Al-Asr ou Al-Fajr. Ce sont deux prières qui sont faites à des moments qui viennent après un repos. Après un repos. Al-Fajr, avant Al-Fajr, il y avait quoi? Il y avait le sommeil, il y avait le repos, la nuit. Difficile de se lever. Al-Asr demain. Les gens ont travaillé, ils se reposent. Difficile de se réveiller pour faire cette prière. C'est quelque chose qui concerne un bon nombre d'entre nous. Et je me rappelle, je rappelle à ces gens-là, le verset Allah Azza wa Jalla dit « Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun » Malheur à ces gens qui prient « Na hum an salatihim sahun » qui négligent, qui sont négligents dans cette prière. Et lorsque les savants ont expliqué ce verset, ils ont dit « négligent », c'est-à-dire pas qu'ils ne la font pas, non, ils la font, mais qu'ils, de manière négligée. Par exemple, pas à l'heure. Ou alors, ne pas respecter les obligations de la prière, la manière dont cette prière est faite, les ablutions, etc., etc. Ici, il s'agit de quelqu'un qui dort en connaissance de cause pendant l'heure de cette prière. « Malheur !» Certains savants ont traduit Wail en disant que c'est un fleuve qui est dans Jahannam, en enfer. Ça c'est pour les gens qui négligent la prière. Que dire les gens qui ne la font carrément pas? Et Allah Azza wa Jalla dit, par rapport aux hypocrites, il a une caractéristique propre aux hypocrites dans Surat An-Nisa. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا. Lorsqu'ils se lèvent pour faire la prière, قَامُوا كُسَالًا, ils se lèvent par paresse. Ça, c'est une caractéristique propre aux hypocrites. Quelqu'un qui dort en connaissance de cause et qui se lève après l'heure de la prière, il se lève comment? Il se lève par paresse. Il a un fardeau sur ses épaules. Il doit accomplir cette prière. Il aurait aimé encore plus dormir peut-être, ou bien il aurait aimé que cette prière n'existe pas à ce moment-là. قَامُوا كُسَالًا. Ils la font par paresse. Et on a une fois parlé de la prière dans une conférence pour ne pas refaire le sujet. On vous rappelle juste un hadith ou deux concernant la prière. Hadith d'Aïcha qui dit par exemple, c'est pour comparer cette personne qui dort au prophète عليه الصلاة والسلام qui dit, Aïcha dit, كَانَ يُحَدِّثُنَا فَنُحَدِّثُهُ. Il parlait à ses épouses عليه السلام et elle lui parlait, il discutait. Et lorsque le moment de la prière arrivait, كَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُنَا. Il se levait par terre, comme si il ne connaissait pas, il nous ignorait carrément, parce que l'heure de la prière était venue. Et pour vous donner encore, ici concernant un compagnon, l'importance qu'il donnait à la prière, il s'agit de Omar, radiallahu anhu. Il fut poignardé à la fin de sa vie, poignardé. Le sang coulait, il perdait beaucoup de sang, et d'un moment à l'autre, il perdait connaissance. C'est bien mis, perdait connaissance. À un certain moment, les compagnons n'ont pas su. Est-ce qu'il est en vie ou alors il est mort ou quoi que ce soit. L'heure de la prière était là. Ils ont dit, maintenant on va le savoir. Ils ont dit, Ya Omar, As-salah. Ils ont dit dans l'oreille, Ya Omar, la prière. Il a sursauté. Alors qu'il était évanoui, il a sursauté. Il a la prière, et il s'est levé. À l'encontre du mot prière, il s'est levé, et il a prié, alors que le sang coulait à flot. L'importance de la prière. Évanoui, blessé, sur le point de mourir, comparé à celui qui dort, volontairement, comparé. Ces gens-là, ils étaient comme ça dans l'adoration. Ces gens-là, malgré ça, lorsqu'ils agonisaient, c'était la fin de leur vie, ils pleuraient, ils avaient peur. Certains d'entre eux disaient, si ma mère ne m'avait pas mis au monde. Regardez l'adoration, et regardez, malgré ça, ils pleuraient quand ils mouraient. Peur du jugement. Comparer nous à eux. Ils voyaient la différence. Et on peut se poser la question, comment, à l'entente de ces choses-là, comment peut-il venir à l'esprit, je ne dis pas d'un musulman, à l'esprit de celui qui prétend être pratiquant et qui combat pour le livre d'Allah et la sunna. Je parle de cela. Comment peut-il lui venir à l'esprit de dormir pendant l'heure de la prière? Comment est-il possible de prendre le réveil et de le mettre 2 heures, de le régler sur 2 heures ou 3 heures après l'heure de la prière, exprès, de manière volontaire? Vous savez que certains savants ont dit, celui qui règle le réveil de cette manière, de manière volontaire, en sachant que la prière est bien avant, c'est quelqu'un qui a délaissé la prière de manière volontaire. De manière volontaire. Certains, c'est bien dit certains, l'ont classé parmi les koufars. Il a délaissé la prière de manière volontaire. Que dire de quelqu'un qui entend le réveil sonner, lakin il l'éteint. Il l'éteint. Ou alors quelqu'un qui se réveille, laisse-toi prendre la prière, et tu dis laisse-moi. Et après, il te dit, j'étais tellement dans le sommeil, fatigué que vraiment tu m'as réveillé, je ne savais pas. Je ne savais pas que tu m'avais réveillé. Tu le pousses comme ça, tu lui dis réveille-toi, il y a un voleur, où il y a le feu, il va sursauter. Il va sursauter. Là, il sera conscient. Il faut lui dire réveille-toi, il y a le feu de l'enfer qui t'attend. Il y a peut-être aussi sur ce coup. Et c'est bien de rapporter le. Il y a un verbe, bon. Permettez-moi de quand même le citer, c'est pas très beau à entendre, avec Na'al ibn Hal, qui dit La ta'aribanna, c'est un verbe poétique. Il dit La ta'aribanna, li zikrina, fi zikrihim, laysa sahihu ida nashaka al-muqadi. Ce verbe poétique dit ne parle pas de nous lorsque tu parles de eux. Car il n'est pas comparable, quelqu'un qui marche avec ses deux pieds, il n'est pas comparable à celui qui était handicapé. Je veux dire, dans ce verset, quand on parle de ces gens-là, les compagnons de leur adoration et de As-Salaf Salih, on ne parle pas de nous. Il ne faut pas qu'on parle de nous, parce que c'est une très grande différence. C'est comme quelqu'un qui marche sur ses deux pieds, ces gens-là, et quelqu'un qui est handicapé, ce sont ceux qui donc négligent cette adoration. Deuxième symptôme, deuxième maladie, toujours dans le même sens, Adam al-Tadkir et la Salah. Le fait de se rendre à la prière, mais à la dernière minute. À la dernière minute. Que ce soit pour al-Jama'a, la prière en commun, que ce soit pour al-Jum'a, la prière du vendredi. Je rappelle aux frères qui se parlent de ce musulman pratiquant. Chaque fois ça. Venir à la dernière minute à la prière. Le prophète alayhi salatu wa sallam a ce sujet dit, si les gens savaient le mérite qu'il y avait concernant le premier rang, eh bien, ils se seraient empressés et peut-être même combattus l'un et l'autre pour venir à ce premier rang. Si seulement ils savaient, qu'ils ne savent pas pour la plupart. Ibn al-Musayyib, ou bien Ibn al-Musayyib, les deux sont bons, on rapporte avec une chaîne authentique, il dit, pendant 50 ans, ce niveau bien, 50 ans, jamais, jamais, je n'ai été après la première takbira. Je n'ai jamais raté la première takbira à la mosquée. La première takbira, c'est lorsque l'imam commence. Il veut dire, pendant 50 ans, il n'a jamais été après que l'imam ait commencé la prière. Al-A'mash, 70 ans, jamais, il dit, jamais, je n'ai été après la première takbira, pendant 70 ans. D'autres, parmi les célestes, Ibn Sama'a, il dit pendant 40 ans, je n'ai jamais été après la première takbira, sauf une fois, à cause du fait que ma mère était morte. Donc il n'a pas rattrapé la première takbira. Certains, ulama parmi les mutaqaddimin, parmi les anciens, comme Soufiane, Ibn Uyayna disait, il ne fait pas partie du respect de la prière, que d'arriver après l'Iqama. Il ne fait pas partie du respect de la prière que d'arriver après l'Iqama. Essayez d'aller le vendredi à la mosquée tôt, 2 heures avant, ou 1 heure avant la prière. Vous allez voir, dans les premiers rangs, des gens adultes, des vieux, pour la plupart, des musulmans tout à fait normaux. Et puis attendez. Tandis qu'il reste 5 minutes, 10 minutes pour la prière, ou 20 minutes. Vous allez voir les gens qui rentrent, pour la plupart des jeunes, pratiquants, qui suivent le Coran et la Sunna. Pire que ça, il y en a qui ont encore le culot de passer outre les gens qui sont là depuis 1 heure ou 2 heures et de chercher des places devant. Ça, c'est le jeune musulman pratiquant qui suit le Coran et la Sunna qui est censé montrer l'exemple. Demain pour le jama'a. Pour le jama'a. La prière en commun. La dernière nuit. Ou bien au dernier sens. Ou bien à la mosquée, à la porte de la mosquée en train de bavarder. On entend l'adhan quand on est bavardé. Les gens font d'orikhat. Seul Allah Azza wa Jal connaît la grandeur de la récompense qu'il y a dans ces d'orikhat. On continue à bavarder dehors. On entend l'iqama, on continue à bavarder. On sent que l'imam va presque dire Allah Akbar pour le rukou', on se précipite, on court, on dérange. On fait du bruit, on arrive. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Lorsqu'ils s'apprêtent à faire la prière, ils la font avec paresse. C'est une caractéristique d'hypocrite. C'est une caractéristique d'hypocrite. Ça ne veut pas dire que la personne est hypocrite, c'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est une caractéristique. Il y a toute personne qui fait quelque chose qui est propre aux hypocrites, mais n'est pas spécialement hypocrite. Mais on craint pour cette personne. Parmi les symptômes, عدم الخشوع في الصلاة. Le fait qu'il n'y ait pas de recueillement, d'apaisement dans cette prière. Elle n'est pas faite avec le khushu'a, avec humilité. Peut-être un mot sur le khushu'a, bien qu'on comptait faire une conférence sur ce sujet, qui serait éventuellement, Inch'Allah, la deuxième partie de la conférence, la prière. C'est une petite parenthèse. Pourquoi le khushu'a est ça? Pourquoi l'apaisement dans la prière? Il y a diverses raisons. J'en cite la prière de premièrement, parce que le prophète alayhi salallahu alayhi dit « Fallu kamara et tumoni wa sallu » Priez comme vous m'avez vu, priez. Beaucoup de gens parmi nous n'ont pas très bien compris ce hadith, croyant que ça
Le hadith veut dire, priez comme vous m'avez vu prier au niveau des gestes seulement. Au niveau des gestes, de l'apparence. Non. Au niveau de l'apparence, mais au niveau de la khushu' aussi, de l'apaisement, du recueillement aussi, de la concentration. La deuxième raison peut-être, c'est que pour que cette prière soit valable, avant de faire cette prière, il faut une purification. Aussi bien externe, parfaite, c'est-à-dire les ablutions et autres, qui aussi interne. Préparer ce cœur. Parce que tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal. Tu vas dialoguer avec Allah Azza wa Jal. Préparer ce cœur et cet esprit. Autrement dit, faire le vide. Autre raison peut-être, Allah Azza wa Jal dit كَلَّا لَا تَتَعْهُ وَاسْدُدْ وَاقْتَرِبْ وَاسْدُدْ Prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah Azza wa Jal. Il n'est pas possible de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal si on n'est pas confiant dans cette prière, si on n'est pas recueilli dans cette prière. Et au plus tu es recueilli, tu es apaisé, tu fais cette prière avec humilité, au plus tu es rapproché d'Allah Azza wa Jal, et au plus cette prière a un sens. C'est cette prière dont Allah Azza wa Jal parle en disant « Inna salata tanha ani al-fahsha'i wal-munkar » La prière certainement t'empêche de faire al-fahsha'i des choses qui sont mauvaises, le blâmable, et se rapproche plutôt du convenable. C'est cette prière qui est faite avec apaisement et recueillement. On peut aussi répondre à la question suivante, comment se fait-il que je fais ma prière depuis des mois ou des années, mais j'ai encore beaucoup de défauts et cette prière ne m'empêche pas de faire le mal, à cause de ça notamment. Allah Azza wa Jal dit aussi, « Wa aqimi salata li dhikri » Accomplis la prière pour mon invocation, pour m'invoquer. Comment veux-tu invoquer Allah Azza wa Jal alors qu'il est inconscient dans cette prière. Tu demandes des choses à Allah Azza wa Jal. Il fait des du'a, des invocations. Mais tu es inconscient. Comment veux-tu être exaucé? Tu ne penses même pas à ce que tu dis. C'est mécanique. Tu sors des choses mécaniques. Cette prière n'a pas beaucoup de sens. Voilà pourquoi il faut ce recueillement. C'est une obligation dans la prière. C'est une obligation. Et tellement important que c'est la première caractéristique qu'Allah Azza wa Jal a citée lorsqu'il a parlé des croyants dans Sourate Mu'minun en disant قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Les mu'minun, les croyants, ont réussi. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Ils ont gagné, ils ont réussi. Et parmi les caractéristiques Allah Azza wa Jal cite qui sont propres à ces croyants, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Ceux qui sont recueillis dans leur prière. Pour vous donner quelques exemples, on rapporte que Ali ibn Hussein, lorsqu'il faisait ses ablutions, il devenait pâle. On reconnaissait son visage. Il était pâle, tout à coup, soudain. Et on lui disait, qu'est-ce qui t'arrive? Il se dit, subhanallah, qu'est-ce qui m'arrive? Vous ne savez pas qui je vais rencontrer? Devant qui je vais me mettre debout? C'est ça qu'il répondait. Et, comme c'est toute l'histoire d'Abu Bakr, radiallahu anhu, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, à la fin de sa vie, disait, Mouru Abu Bakr al yusalli bin nas. Allez, demandez à Abu Bakr de diriger la prière. Aïcha lui dit à Rasulallah, Abu Bakr c'est quelqu'un qui est fragile, qui ne se retient pas, qui commence à peindre la prière, qu'ils font en larmes. Pourquoi ils font en larmes Abu Bakr? Parce qu'il est recueilli dans cette prière. Il l'a fait avec humilité. Il sait à qui il s'adresse. Et d'autres compagnons, comme Abdullah ibn Shaddad, rapportent, ils ont entendu la pleure de Omar alors que j'étais dans les derniers safs, dans la prière. Lorsqu'il lisait, radiallahu anhu Omar, dans la prière, il dirigeait la prière, il disait, Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Et Abdullah ibn Shaddad, il dit tout à la fin. Ils ont entendu sa pleure, alors que j'étais à la fin. Et le verset, c'est, Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je me plains, Allah azza wa jal, de ma tristesse et de mon déchirement. Et il pleurait, radiallahu anhu, dans la prière. Il rapporte dans Siyar, concernant Al-Thawri, radiallahu anhu, un parmi les salafs, Ali ibn Fudayl, l'a vu devant le Kaaba. Il a vu Al-Thawri en train de prier. Il dit, je l'ai vu en état de prosternation, s'il se joue, et j'ai fait 7 fois le tour du Kaaba, au Tawaf. Quand j'ai fini 7 fois, Soufiane n'avait pas encore relevé sa tête de se joue. Recueillement dans la prière. Et subhanallah, ce n'est pas le seul qui rapportait ça. Un autre la rapporte, il a vu la même chose. C'est Ibn Wahb. Il dit, j'ai vu Soufiane devant le Kaaba, il dit à la prière de l'Maghrib. Après la prière de l'Maghrib, en état de prosternation. Il dit, il est surveillé. Celui qui fait appel à la prière, il a fait l'appel à la prière pour l'Adhan. De l'Maghrib jusqu'à l'Adhan, Soufiane n'avait pas encore levé sa tête de sujoud. Lorsqu'il a entendu l'Adhan pour l'Isha, il relève sa tête de sujoud. Ça fait des exemples de Salaf Saleh, la manière dont il priait, la manière dont il adorait Allah Azza wa Jal. D'autres, comme Ibn Kathir dans le Bidaya wa Nihaya rapporte, d'après Abdullah ibn Zubayr, on a vu, quelqu'un l'a vu, c'est Muslim al-Makki l'a vu, en état de recours. Dans le recours. Il dit, j'ai vu Al-Baqara, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida, et Abdullah ibn Zubayr était toujours dans le recours. Ça fait ces quatre sourates, ça fait plus ou moins, ça tourne aux alentours de 13 films. 13 films du Coran. Ça fait un quart du Coran. Abdullah ibn Zubayr était toujours en état de recours. N'allons pas très loin. L'imam al-Bukhari, alayhi wa rahmatullah, mordu 17 fois par un insecte, des graves morsures, dans la prière, à la fin de la prière, mordu partout, le sang, il dit, je ne sais pas ce qui m'a touché, ce qui m'a dérangé dans la prière. Il dit à ses amis, je ne sais pas ce qui m'a dérangé dans la prière. 17 fois, ils ont compté 17 morsures. Il était recueilli dans la prière. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Il peut y avoir des, une société de centaines d'exemples comme ça, concernant donc l'ibad de Salaf Saleh, comme Asim, l'imam Asim, que vous devez connaître. Asim, c'est le professeur de l'imam Hafs. Vous savez, la version du Coran qu'on lit, que la plupart lisent aujourd'hui, c'est la version de Hafs. Asim, c'est le cheikh de Hafs. C'est son professeur. Lorsque il rentrait dans la prière, les gens qui le voyaient, ils disaient, Asim devenait comme un bâton. Comme une planche, ne bougeait pas quand il rentrait dans la prière. Ça, c'est le recueillement. Alors, par rapport à ces exemples, on se pose la question, sincèrement et franchement, qu'en est-il de notre prière et de notre concentration dans la prière? Nous, qui prétendons être musulmans, pratiquants, Ahlus Sunna, les gens qui bougent 10 fois, 15 fois, 20 fois dans la prière, pour faire quoi? Pour faire ça, arranger le chapeau. Comme ça. La barbe, arranger la barbe. Je suis ceci. Pour ceux qui ont le chômage, le retard, on arrange un peu. On fait ceci. On bouge dans tous les sens. C'est ça, recueillement dans la prière? Regardez les exemples. Regardez, c'est quoi notre pratique à nous? Comment, qu'est-ce qu'on entend par pratique? Qu'est-ce qu'on entend par multazim? Musulman pratiquant. Pratiquant quoi? On va y revenir par après. Parmi les symptômes, avant de continuer, ce genre de conférence, il nous faut des heures et des heures et des heures pour parler de tout ce qu'on voit. Ici, moi, je mets l'accent sur les adorations seulement. Parlons pas du comportement, parlons pas de soucis, il y a beaucoup de choses. Et pourquoi est-ce que je parle d'adoration? Parce que c'est la base. Tu ne peux pas parler d'autre chose si même le rapport qu'il y a entre toi et Allah Azza wa Jal n'est pas bon. Tu ne peux pas aller plus loin, c'est pas possible. Si même le rapport qu'il y a entre toi et Allah Azza wa Jal est négligé, et tu ne le connais pas, tu ne veux pas aller plus loin. Tu ne veux pas corriger autre chose. C'est pour ça que je mets l'accent, parce que certains peuvent me poser la question, est-ce qu'il y a que ce défaut qui est en nous? J'ai dit non, il y a des milliards de défauts en nous. Mais je commence par cela, parce que cela me semble le plus important. Et ça, c'est la base de tout. Parmi les symptômes et les erreurs de ce musulman pratiquant, qui se prétend de l'Ahlus Sunna, c'est le fait qu'il ne pratique les d'adoration surrogatoire, qui sont supplémentaires, du genre, les prières, rawatib, sunan rawatib, les prières qu'on fait avant et après, les prières quotidiennes, les rak'at qu'on fait avant Abdur, celles qu'on fait après, celles qu'on fait après le Maghreb, après l'Isha, avant le Fajr, qiyamul layl, on en a parlé une fois lors d'une conférence qui s'appelle, intitulée « Les sunan délaissés ». Il n'est pas possible que quelqu'un qui se prétend musulman pratiquant ne puisse pas faire ces adorations qui sont surrogatoires. Quelqu'un qui prie les prières quotidiennes, et en plus on a vu comment est-ce qu'il est prié, seulement, qui jeûne le mois de Ramadan seulement, et en plus négligé, il ne peut pas être fier. Il n'y a pas de quoi être fier. Il faut chaque fois se comparer au temps des compagnons et à l'adoration des compagnons pour arriver peut-être à ce qu'ils étaient. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que j'ai l'impression qu'avec un strict minimum, certains d'entre nous croient qu'ils ont le paradis assuré. Et c'est tellement vrai que certains d'entre nous croient tellement qu'ils sont loin dans la pratique, qu'ils sont presque infaillibles, et qui se lancent dans les jugements. Dans les jugements, sûrs de lui. Tellement sûrs de lui que tel est un innovateur, tel est un pervers, tel est un caché, tel n'est pas dans le chemin, tel est égaré, tel n'est pas dans le manhaj, et tel, et tel, et tel, et tel. Tellement sûr de soi, subhanallah. Regardez, Umm Habiba, elle dit, par exemple, par rapport au sonam Ar-Rawatib, elle dit, celui qui prie, le prophète al-Hassan dit, celui qui prie 12 rak'at quotidiennement, Allah Azza wa Jal lui construit une demeure au paradis. Une demeure au paradis. Il s'agit ici de rak'at qu'on fait avant et après chaque prière. Le prophète Al-Sultan, concernant par exemple Qiyam al-Layl, la prière de la nuit, il dit la meilleure des prières, c'est la prière quotidienne, obligatoire, suivie de Qiyam al-Layl, suivie de Qiyam al-Layl, des rak'at que vous faites la nuit pour Allah Azza wa Jal. Et regardez ce hadith comme ça qui interpelle un jeune. Au moment où le prophète Al-Sultan a dit ce hadith, il était jeune, c'était Abdullah ibn Omar. Lorsque le prophète a évoqué, alors qu'il n'était pas là, Abdullah ibn Omar, il dit Ni'ma al-Rajul, Abdullah. Il a parlé de bien en lui. Donc, il y a un Nasi, il faisait Qiyam al-Layl, parce qu'il ne faisait pas. Et on a dit ça à Abdullah ibn Omar. Depuis lors, Abdullah il dit jamais, jusqu'à la fin, jamais, il a délaissé, il a laissé tomber Qiyam al-Layl, par quatre qui fait la nuit. Parmi l'adoration obligatoire, il y a le jeûne. Les trois jours de chaque mois lunaire, le 13, le 14 et le 15. Il y a parfois le jeudi et le lundi. Il y a Shawwal, il y a Arafat, il y a Ashura. Entre parenthèses, demain il faut jeûner. Inch'Allah, demain il faut jeûner. Quand je dis il faut jeûner, je ne parle pas de il faut au point de vue juridique, c'est-à-dire il est obligatoire. C'est dans l'autre sens. Il est fortement recommandé de jeûner demain pour celui qui veut des hasanat. Si qu'il y en a trop, il n'est pas concerné par ce hadith. Et Ashura, le jeûne de Ashura équivaut à un an de péché effacé. Avec les conditions, évidemment. Les conditions, c'est faut que ce jeune soit sincère par Allah, Azzawajal, on surveille son regard, son ouïe, etc. Si les conditions, Inch'Allah, sont remplies avec sincérité, on a droit à cette récompense que le prophète al-Islam nous a promis. C'est demain, Ashura. Et à ce sujet, peut-être rajouter que dans Sahih Muslim, le prophète al-Islam d'après Bukhari a dit « Afdalu siyam ba'da Ramadan siyam shahrullahi al-muharram » Le meilleur des jeûnes, après le jeûne du mois de Ramadan, c'est le jeûne de ce mois-ci dans lequel nous sommes, Sahrullahi al-Muharram. En d'autres termes, en résumé, si on est des musulmans pratiquants et qu'on est présent, essayez de s'accrocher à ces sunan, à ces adorations obligatoires. La première chose dont on se réjouit en Qiyamah, c'est la prière. Cette prière n'a pas été faite correctement, n'a pas été complète. Et c'est vrai pour la masse. On dira, regardez si il peut combler cette prière qui a été mal faite à certains moments avec des prières obligatoires. Et lui, il a trouvé ces prières obligatoires devant lui qu'il a faites sur terre. Il va combler, inchallah, les prières qui ont été mal faites, mal accomplies. S'il a rien fait. Si son jeûne de Ramadan est manquant, parce que qui d'entre nous peut dire, moi, depuis que je jeûne, j'ai jeûné le mois de Ramadan, sans faute. Tous les jours de Ramadan, depuis des années, sans faute. Concernant l'ouïe, concernant le regard, concernant mes paroles, concernant l'adoration, concernant la sincérité, concernant, personne ne peut dire ça. Tout le monde peut dire avec facilité, c'est vrai, il est possible qu'on ait des jours manquants. Si tu ne jeûnes pas des jours supplémentaires, qu'est-ce que tu vas faire? Demain pour la zakat, et demain pour les autres adorations. Autre symptôme, Adam, qara'at al-Qur'an. Le fait de ne pas lire assez le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, et le fait de ne pas l'étudier. C'est un symptôme parmi les symptômes. Et il n'y a pas de doute que lire le Coran et le méditer, c'est le meilleur des moyens pour rester accroché à la religion d'Allah Azzawajal. C'est la meilleure des protections contre la déviation et contre les tentations, contre les shubuhat, les ambiguïtés, et contre les shahawat, les attirances, quelles qu'elles soient. La meilleure des protections, c'est le Coran. C'est la meilleure des protections à cause du fait que, grâce au fait qu'il s'agit de la parole d'Allah Azzawajal. Il s'agit de la parole du Seigneur des mondes. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. C'est pas la parole de quelqu'un. C'est pas la parole d'un poète, ni de qui que ce soit. Il s'agit de la parole d'Allah Azzawajal que tu dis. Parfois, dans la vie de tous les jours, on peut être dérangé par certaines choses. Et chacun est différent. Certains peuvent être dérangés parfois par des doutes, des shubuhat, des ambiguïtés. La création, je cite l'exemple, la création de l'univers, le hasard, pas le hasard, c'est tout. Tu lis dans le Coran la parole d'Allah Azza wa Jalla qui dit أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Ont-ils été créés à partir de rien? Ou bien sont-ils eux-mêmes leur propre créateur? Et ce verset vient comme ça sur son cœur et il l'apaise, il le refroidit. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Tu as des problèmes du genre, tu as tendance à faire des péchés. Et ton nef te pousse. Tu lis dans le Coran, كَرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَسْعَلُونَ. C'est-à-dire que tu parles des anges. كَاتِبِينَ, ils écrivent tout ce que tu fais, tout ce que tu dis à chaque moment, à chaque instant. يَعْلَمُونَ مَا تَسْعَلُونَ, ça, c'est vous. Et puis tu lis le verset d'Allah Azza wa Jalla, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et tu lis le verset d'Allah Azza wa Jalla, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Toute parole, même si cette parole elle est insignifiante, toute petite qu'elle soit, eh bien, il y a quelqu'un qui la récolte et qui l'a écrit, qui l'a transcrit et qui la trouvera devant Allah Azza wa Jalla. Et tu t'arrêtes. Tu arrêtes de faire ses péchés, ou alors tu te guéris en fait. Grâce à cette méditation, grâce à cette lecture du Coran. Tu peux te dire, pourquoi est-ce que moi je dois pratiquer? Pourquoi est-ce que je me fatigue? La majorité des gens ne pratiquent pas et ils sont bien. Et tous les versets d'Allah Azza wa Jalla dit, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas. La majorité ne savent pas. Alors il ne faut pas les suivre. La majorité ne savent pas. Comme Allah Azza wa Jalla dit, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Il jure par le temps que l'homme est en prédiction. Sauf quelques-uns qui ont rempli certaines caractéristiques. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُوا الصَّالِحَاتِ. Ils ont cru, ils ont fait des bonnes œuvres. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. C'est pas fini parce qu'ils ont transmis cette vérité qu'ils détenaient. Ils ont fait le da'wah ila Allah, ils ont appelé à la religion d'Allah Azza wa Jal. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. C'est la troisième caractéristique. Et puis la dernière, et la plus dure, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ils se sont enjoints la patience et l'endurance. Comme quoi, lorsque tu seras croyant, pratiquant, tu vas conseiller le bien, tu ne vas pas être aimé. Tu ne vas pas être aimé. Tu seras détesté. On va te mettre des bâtons dans les roues. Alors Allah Azza wa Jalla te prévient. Sache que si tu empruntes ce chemin de l'iman, de l'amal salih, et de l'haq, et de da'wa, tu seras dérangé. Tu auras des nuits. Alors Allah te dit, va t'avoir sur le sabr. Attention, pour la patience, pour l'endurance. Comme le messager d'Allah Azza wa Jalla ont subi, et comme à travers les générations, les croyants ont subi les épreuves de ce genre. Parfois, tu peux être dérangé par certaines moqueries. Par la moquerie, les gens se moquent de toi. Les koufars se moquent de toi, de ta religion, de ton aspect. Et puis tu lis les versets, Allah Azza wa Jalla dit, فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Et aujourd'hui, les croyants rient des koufars qui eux riaient de même sur terre. Et tu es apaisé. وَهَكَذَا. Tout ce qui te peut déranger sur cette terre, dans la vie de tous les jours, toutes les questions, toutes les ambiguïtés, tous les arrangements, toute tristesse, etc., tu trouveras une réponse dans la parole d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que vous avez dit au début, la lecture du Coran et la méditation du Coran, c'est le meilleur moyen de te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, de rester accroché à cette religion et de te préserver contre l'égarement. Parmi ce qu'on peut relever comme défaut aussi, chez nous, qui prétendons être donc musulmans pratiquants, c'est le fait qu'on ne fasse pas beaucoup d'invocations. On n'invoque pas Allah Azza wa Jalla assez. Encore une fois, c'est une caractéristique des hypocrites. Ils invoquaient Allah Azza wa Jal que lorsque les croyants les entendaient. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا comme dans Sourate Nisa, Allah Azza wa Jal dit à propos d'eux. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا et ils invoquent Allah Azza wa Jal que très peu. Très peu. Et Allah Azza wa Jal, dans le sens contraire, il dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا oh vous qui avez cru. On peut dire, entre nous, oh, nous qui prétendons être musulmans pratiquants et suivre la sunna et prétendons être de Ahl sunna al jama'a, Uzkurullah zikran kathira. Ya ayyuha alladhina amanu, Uzkurullah zikran kathira. Invoquez Allah Azza wa Jal de manière abondante. De manière abondante. Tout le monde ici a vu le petit livre qui s'appelle La Citadelle, quelque chose du musulman en France, traduit, phonétique, etc. Chacun peut poser la question et se répond soi-même. Est-ce que, depuis le temps que ce livre existe, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'il existe? En tout cas, sur le terrain ici, bien que le livre, je sais qu'il est bien vieux, plus ancien que ça, est-ce que depuis 2, 3 ans, 4 ans, je le connais par cœur? Qui le connaît par cœur? Il n'y a pas beaucoup d'invocations dans ce livre, quelques-unes. Mais, entre-temps, il y a eu 2 ans de temps, ou 3 ans, ou certains, il y a eu 6 mois, ça dépend quand on l'a eu en main. Est-ce que 6 mois, 1 an, ça ne suffit pas pour étudier ces invocations et invoquer Allah Azza wa Jal chaque fois que tu fais quelque chose, quand tu sors de chez toi, quand tu penses, quand tu vas dormir, quand tu te réveilles, après la prière, lorsque tu entends le tonnerre, lorsque ceci, lorsque ça, lorsque tu t'habilles, lorsque tu manges, lorsque tu termines. Est-ce qu'on les connaît par cœur? Question. Et puis on peut répondre, est-ce que je suis musulman vraiment pratiquant, accroché à la religion fermement? Ou alors je suis quelqu'un qui prétend, qui veut, mais qui n'est pas. Parmi les défauts qu'on peut relever, et là, il y a des conférences qui ont été faites à ce sujet, alors je cite ça très brièvement, sou'ul akhlaq, le mauvais comportement. Ça, c'est la catastrophe. Chez nous, les gens qui prétendons être un sunna, la catastrophe au niveau du comportement, la catastrophe. C'est cette partie dont j'ai parlé au début, de l'intervention, c'est cette partie de la religion qui est négligée, qui est délaissée, qui est abandonnée. Qui est abandonnée. Et on peut, suivant certaines télévisions, dire avec facilité que l'islam se divise en 3. Tu as l'aqaïd, la foi et la croyance, et tout ce qu'elle comporte. Je peux dire en bas, il y a l'ibadat, les adorations, les rapports qu'il y a entre toi et Allah Azza wa Jal. Et c'est-à-dire, en troisième lieu, il y a al-mu'amalat. Les rapports qu'il y a entre toi et les gens, le comportement. Dans tout livre de jurisprudence, de fiqh, vous allez voir, on commence par, tout le temps, par l'ibadat, partie l'ibadat, et puis vous avez la partie al-mu'amalat. Le rapport, les rapports qu'il y a avec les autres. C'est un défaut très apparent et très gênant. Qui fait fuir parfois les gens. Et il y a de quoi. Certains parmi nous ont mal compris le message de l'islam. Très mal compris le message de la sunna. Ont très mal compris ce que c'est la pratique. Pour certains, la pratique de l'islam et de la sunna, c'est ne pas dire salam alaikum, marcher la tête baissée, interdiction de faire un sourire, rien du tout. Pour celui qui dit salam, tu réponds à salam alaikum salam, et ça s'arrête là. On parle méchamment, répond méchamment, et des choses comme ça. Et je passe certains comportements que j'ai pas envie d'en parler plus longtemps. Certains versets. Allah Azza wa Jalla dit, par rapport à son messager, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Il qualifie le prophète alayhi salam, Allah Azza wa Jalla, comme quand il a un comportement noble, de haute qualité. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Question. Toi, mon frère musulman pratiquant, qui défend la sunna, qui est prêt à ne pas dire salam alaikum à ton frère parce qu'il n'a pas la barbe. Ou parce qu'il commet une erreur. As-tu entendu ce verset? Pourquoi est-ce que tu ne suis pas le prophète alayhi salatu wasalam dans son comportement à lui? Est-ce que le prophète alayhi salatu wasalam, je dois le suivre juste dans certaines choses et pas dans d'autres? Autre verset. Encore plus frappant. On peut dire avec facilité, grâce aux deux versets, que Al-Aqida, la foi et le comportement vont de pair. Ils vont de pair. L'argument est le suivant. Dans Sourate Al-Imran, Allah Azza wa Jalla dit: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Grâce à la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, tu es bienveillant envers eux. Et puis Allah Azza wa Jalla dit: وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu avais été dur, tu avais été sévère, et tu avais un cœur dur, لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Il se serait éloigné de toi. Il se serait éloigné de toi. Ce verset, il veut dire en d'autres termes, ce qu'on appelle dans l'usul, mafhoum al-mukhalafa, je peux traduire ça comme ça. Ne sois pas sévère. N'aie pas un cœur dur. Car sinon les gens vont te fuir, ils vont s'éloigner de toi. Et si je m'adresse à toi et à moi et à nous, qui avons un message à faire passer, qui devons faire da'wah ila Allah Azza wa Jalla, appeler les gens à cette religion et à revenir à cette religion. Alors je me dis à moi-même et je vous dis, ne soyez pas sévère. Les durs, sinon ils vont s'éloigner. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla dit à son messager, alayhi salatu wa salam. Et il est de notre devoir de suivre ce messager dans tout. Parce que lorsqu'on dit, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, il est dans la personne du prophète عليه الصلاة والسلام, l'exemple parfait pour vous, c'est dans tout. Il dit, Allah Azza wa Jalla, toujours au niveau du comportement, à son prophète, عليه الصلاة والسلام, خذ العفو, sois bienveillant, وادب بالبيان, وأمر بالعرف, وأمر بالعرف, et ordonne, recommande le convenable. Et éloigne-toi des ignorants. Éloigne-toi des ignorants, ça veut dire ne te fâche pas lorsque quelqu'un est ignorant et qu'il s'adresse à toi avec des choses insensées, pas très correctes. Il est ignorant, éloigne-toi de lui. Ne discute pas, ne perds pas ton temps avec quelqu'un qui est ignorant. Si c'est quelqu'un qui est mu'amid. Quelqu'un qui est mu'amid, quelqu'un qui n'accepte pas al-haq, qui prononce des choses insensées, incorrectes, se dispute, qui cherche à bagarre, la dispute, eh bien, éloigne-toi de lui, ne perds pas ton temps, parce qu'il est jahil. Et le prophète, alayhi wa sallam, dit, dans un hadith authentique, rapporté par al-Hakim al-Tirmidhi, il dit, أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق. حسن الخلق, عفن. التقوى, تقوى الله, وحسن الخلق. Les deux choses qui font le plus rentrer les gens au paradis, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jalla et le bon comportement. Et le bon comportement. Il dit à Jabir, le hadith que vous connaissez, Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah Azza wa Jalla où que tu sois. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Et fais suivre le mal par le bien, il l'effacera. Okay. Ce mal que tu as fait, fais-le suivre d'une bonne action, elle va l'effacer, Inch'Allah. Wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Et comporte-toi de manière correcte avec les gens. Et, bon. Pour ne pas tarder, encore une fois, rien qu'au niveau de la parole, ou de l'exemple. Parce que le bon comportement, c'est quelque chose de très vaste. C'est comme le sujet d'aujourd'hui, la foi sans fruit, c'est très vaste. C'est très vaste. Ça ne se limite pas seulement au rapport, il y a d'autres choses dans notre manière de discuter avec l'un et l'autre. Souvent, je vois des frères qui discutent, ici même, ici. Des frères très proches de nous qui discutent, mais qui ne sont pas capables de laisser le frère terminer la parole pour intervenir. Pas capable. Le frère parle, qui n'est pas capable de le laisser terminer sa parole pour intervenir. Je donne un exemple de Atta ibn Rabah qui dit, parfois il se peut que quelqu'un me parle d'un hadith et je l'écoute jusqu'à la fin, sans dire un mot. Et je lui dis, Jazakallahu khayran. Alors que je connais ce hadith, avant qu'il naisse. Avant que ce type-là naisse, je connaissais déjà ce hadith. Et je le laisse terminer. Expliquer la chose. Je ne dis pas avant qu'il commence, ouais, ça je sais, je connais. C'est des discussions, parfois des discussions avec les frères, de religion, ou de choses, de science, etc. Mais ça je sais. Le frère n'a pas dit, écoute mon frère, écoute à la fin, na'am. Na'am, j'ai entendu, ou sahih, ou quelque chose. Là, directement, je connais pas ça au-dessous. C'est un comportement. Lorsqu'un homme dit parmi les salafs, il dit, si tu prononces un mot, je t'en dirai 10, je te répondrai avec 10 mots. Tu n'as pas intérêt à prononcer un mot. Moi, je te répondrai avec 10 mots. Le savant lui répond, si on prononce 10, j'en prononcerai aucun. Je ne répondrai même pas. C'est son chloc. Il a pratiqué pour arriver à l'Indahili et éloigner l'histoire des ignorants. Il hurle. On me fait signe d'arrêter. En réalité, je suis au tiers. Je suis au tiers de cette conférence. Et il n'y a pas de solution que d'arrêter. Je vais terminer juste avec cette remarque qui est que le comportement ne se limite pas à ce qu'on a dit maintenant. Au contraire, le comportement englobe tellement de choses. Je vous donne juste un exemple. La manière de s'habiller, c'est un comportement. C'est partie du comportement. La manière de s'habiller, ça fait partie du comportement. Et souvent, on peut voir de la négligence dans ce sens. Croyons, certains frères, que l'islam et la sunna, c'est de s'habiller n'importe comment. N'importe comment. Mettre n'importe quoi sur la tête et sur son corps, mettre une veste et sortir la barbe dans tous les sens, de préférence en tirant la tête. On ne sourit pas, on ne rigole pas ou et des choses comme ça. Parfois mal propre. Ça, ça ne fait pas partie du comportement du musulman. Regardez, l'imam de Ahlul Sunnah, par excellence, l'imam Ahmed, que les savants ont qualifié d'imam de Ahlul Sunnah, que ce soit dans l'aqidah, dans la foi, que ce soit dans le Sunnah. Son fils, Abdullah, il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un faire attention à ses cheveux, à sa barbe, à la propreté de ses habits et à la blancheur du kamis, comme mon père, c'est-à-dire Ahmed ibn Hanbal. Il a dit, quel savoir il avait, quel savant il était. Il n'était pas riche. Ahmed n'était pas riche, au contraire. Mais regardez ce que son fils dit de lui. Ça fait partie du bon comportement. Et je termine en disant que il y a d'autres symptômes qu'on aura une seule occasion de développer, qui sont le fait de perdre le temps, le fait de trop rigoler et de blaguer, ainsi que certains frères qui étaient dans le Zahiliya, c'est un point assez long, et qui, Inch'Allah, sera pour une autre fois, les frères qui étaient dans l'égarement il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a quelques années, qui rentrent, Inch'Allah, dans l'islam, qui retournent, qui reviennent vers cette religion de manière sincère, je vois en eux, pour certains, beaucoup encore de cicatrices de la Zahiliya, au niveau du vocabulaire, au niveau des attitudes, au niveau des blagues, de la moquerie, de certaines choses. Il y a beaucoup de caractéristiques de la Zahiliya qui restent encore accrochées à ses frères. Il y a d'autres symptômes du genre le fait de commettre des shubuhat, des choses qui ne sont pas claires. On ne sait pas si cette chose est halal ou haram. On voit certains frères baisser la tête et les faire quand même. Il y a un autre chapitre concernant les causes de ces symptômes. Les causes de ces symptômes, suivi d'un chapitre qui est l'ilaj, le remède, et suivi d'un chapitre concernant, en résumé, c'est quoi un musulman pratiquant, une musulmane pratiquant. Ça, inshallah, ce sera peut-être le thème d'une autre conférence. Allahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'ajoute qu'un sujet pareil, parce que j'insiste énormément, un sujet pareil, demande des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, des centaines de milliers d'heures. J'ai voulu viser la première partie, les erreurs qu'on fait dans l'adoration. Et j'ai pas fini. Il y a d'autres choses concernant le comportement, concernant la dawa, concernant les problèmes que les musulmans vivent actuellement, concernant comment faire en sorte que de relever la tête des musulmans qui subissent ce qu'ils sont en train de subir. Tout ça rentre dans ce sujet, et tout ça est dû à cette foi sans fruit.